l'Intérieur, Gérard Collomb, et votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Vous signez un appel avec plus de 200 maires de grandes villes européennes pour demander à l'Union européenne de fixer l'objectif zéro émission de carbone en 2050. Alors, sachant que c'est déjà ce que propose la Commission européenne, à quoi bon signer cet appel ?
Si vous voulez, je crois que très largement le problème de réchauffement climatique, les problèmes de pollution, se posent d'abord dans les grandes villes qui sont très émettrices de CO2. Et que la résolution des problèmes peut dépendre aussi de ces grandes villes. Par exemple, on voit bien que sur les constructions, nous sommes aujourd'hui dans des bâtiments à énergie positive, que sur les transports, nous essayons d'avoir des transports qui soient sans CO2, que sur le stock des bâtiments existants, nous sommes dans la rénovation. Donc les villes sont à la fois le problème, mais elles peuvent être aussi la solution. Et donc c'est pour cela qu'un certain nombre de maires s'engagent.
Et il n'y a pas que, hein. Tout le monde nous parle d'écologie en ce moment. Alors vous avez vu, Gérard Collomb, il y a 33 listes aux européennes. Ça va pas être facile de choisir. Vous allez prendre le temps de lire tous les programmes ou vous voterez Emmanuel Macron les yeux fermés ?
Écoutez, lire tous les programmes, j'ai vu qu'il y avait même des problèmes d'impression aujourd'hui, donc il faut déjà qu'ils soient imprimés. Ouais. Non, je crois que on va voter en fonction de ce qu'on considère comme prioritaire. Et aujourd'hui, on voit bien que la liste de La République En Marche est un peu en difficulté et que peut-être il faut faire en sorte que le Rassemblement National n'arrive pas premier.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'Emmanuel Macron ayant besoin de vous, vous êtes là, quoi.
Ben, le président me dit qu'aujourd'hui il a besoin de moi. J'espère que cela va continuer dans l'avenir. C'est vrai que nous avions eu un certain nombre de problématiques sur lesquelles nous nous étions séparés par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le choix est un choix fondamental. Vous voyez, on est devant une Europe qui est en train de se disloquer. Lorsque l'on voit le Brexit, lorsque l'on voit les pays de l'Est mener une politique totalement indépendante, on se dit demain, qu'est-ce qui va rester de l'Europe, alors même que nous avons de grandes puissances comme la Chine, les USA, qui évidemment risquent de dominer la scène mondiale.
Donc vous voterez La République En Marche sans hésiter dans 3 semaines.
Donc je voterai avec toujours ma liberté de penser et de ton, mais je voterai, oui.
Il y a un meeting à Lyon ce soir. Est-ce que vous vous y rendrez ?
Oui, un meeting ce soir à Lyon. Donc, je vais en discuter avec celles et ceux qui animent ce meeting. Mais je souhaite pouvoir apporter effectivement un soutien à ce qui, aujourd'hui, est l'enjeu principal. C'est-à-dire faire en sorte que demain, on ait les moyens à nouveau de gouverner dans ce pays.
Emmanuel Macron ayant besoin de vous, vous vous y rendrez donc ?
Emmanuel Macron ayant besoin de moi, je discuterai avec lui et effectivement je prendrai les décisions qui s'imposent.
Gérard Collomb, depuis votre démission, vous avez gardé le contact avec le président ?
Plus rarement, je vois qu'il se renoue quand les temps deviennent difficiles. Peut-être suis-je un homme des temps difficiles. Lorsque nous avions commencé la campagne ensemble, nous n'étions pas si nombreux pour porter sa candidature. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est à nouveau en difficulté, avec à la fois une crise interne à notre pays, en même temps avec cette situation extrêmement complexe au niveau international.
Vous n'êtes pas rancunier.
Bah écoutez, j'essaye de regarder quels sont les grands enjeux et de me placer effectivement sur ces grands enjeux et pas sur les problématiques personnelles.
Est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, excuse-moi Gérard, c'est toi qui avais raison, j'aurais dû t'écouter sur les APL, sur la désindexation des retraites, sur les 80 km/h ?
Je ne sais pas s'il m'a dit, mais en tout cas, il a corrigé.
Vous l'auriez entendu si vous l'avez dit.
Puisqu'on s'aperçoit que sur les APL, on a mis un moratoire, parce qu'on s'apercevait effectivement que les organismes HLM n'avaient plus de fonds propres et ne construisaient plus. Sur les 80 km/h, la hausse des taxes, dans un moment peut-être qui n'était pas le meilleur, a créé quand même quelques difficultés pour tous les gens qui font 100 km par jour.
Emmanuel Macron a dit que l'épreuve des Gilets jaunes l'a profondément changé. Vous trouvez qu'il a vraiment changé, vous ?
Mais écoutez, en tout cas, il a vu que le pays était plus complexe peut-être qu'il ne le pensait, avec effectivement quelques métropoles qui vont de l'avant, mais qu'il faut encourager à aller de l'avant. Mais une France périphérique qui est en profond désespoir, et il faut tenir compte de ce désespoir.
Gérard Collomb, Emmanuel Macron regrette-t-il de ne pas vous avoir écouté au sujet d'Alexandre Benalla ?
Il faudra lui demander si vous l'interrogez un de ces jours.
Vous n'en aviez pas parlé ensemble.
Je pense qu'il y a eu un avant et un après et que ça a contribué à troubler l'image que pouvait avoir Emmanuel Macron.
Vous l'aviez mis en garde.
Oui, en tout cas, nous avions dit, nous, qu'il fallait que le ministère de l'Intérieur gère totalement ces problèmes pour éviter justement que l'image du président de la République soit directement impactée en cas de difficulté.
L'affaire Benalla est à l'origine de votre démission du gouvernement ?
Il n'y a pas que cela, il y a d'autres
C'était
problématiques, si vous voulez. Mais j'ai vécu ça comme, pour moi, comme une véritable épreuve, parce que ça vous tombe dessus un jour, et vous dites, mais nous, ça fait longtemps qu'on disait effectivement que le ministère de l'Intérieur, dans l'organisation de la protection présidentielle, devait avoir un rôle, en tout cas au niveau institutionnel majeur, même si après, c'est le président qui définit la façon dont il doit être protégé.
Cette affaire a-t-elle définitivement abîmé votre relation avec Emmanuel Macron ?
J'espère que non. Il m'a dit hier qu'il souhaitait pouvoir m'inviter avec Brigitte, avec qui j'entretenais des relations assez fortes, et qui souvent d'ailleurs défendait les positions que je pouvais avoir lors des dîners que nous avions, parce qu'elle sortait plus souvent, elle rencontrait les gens qui lui parlaient, et elle voyait plus ce qu'était la réalité de la France.
Vous échangez toujours avec elle aussi ?
Non, mais j'espère qu'on va le faire.
Vous espérez que cette relation va reprendre, que votre lien avec Emmanuel Macron et son épouse va être renoué.
Bah, si vous voulez, c'est l'intérêt, à mon avis, de nos relations personnelles. Mais au-delà, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que va devenir la France dans les années qui viennent. Est-ce que finalement, ce quinquennat va pouvoir avoir une deuxième phrase et réussir, ou bien est-ce que nous sommes condamnés à l'échec ? Et si nous sommes condamnés à l'échec, pour moi c'est extrêmement grave, parce que cela veut dire que demain, la solution alternative, on sait où elle se trouve.
Gérard Collomb, votre successeur, Place Beauvau, Christophe Castaner, n'arrête pas de se prendre les pieds dans le tapis. Est-ce que ça vous fait sourire ou est-ce que ça vous désole ?
Oui, il peut commettre un certain nombre d'erreurs et il faut qu'il fasse attention, parce qu'évidemment, lorsque vous êtes au ministère de l'Intérieur, tout pèse. Et si vous faites une déclaration hasardeuse, il est clair que ça renforce, par exemple, la tendance gilet jaune.
L'attaque à la Pitié-Salpêtrière, par exemple.
Qui dit, regardez, finalement, ce ministère de l'Intérieur, c'est lui aussi qui joue un rôle dans les difficultés que nous avons. Donc, il faut faire attention à être totalement inattaquable. Attaquable. Vous savez, nous avons eu à gérer une situation difficile qui était Notre-Dame-des-Landes. Et nous avons fait à l'époque attention à ce que la situation soit gérée au plus près possible en prenant toutes les précautions pour que nous n'ayons pas à nouveau, par exemple, l'affaire de Sirvaines.
À sa place, est-ce que vous communiqueriez moins ? Est-ce que vous parleriez moins vite ?
Je pense qu'on n'est pas obligé, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, de communiquer tous les jours, tout simplement parce que on a une masse de documents tout à fait extraordinaires, que ces documents sont des documents toujours provisoires, et donc on ne doit pas juger de leur fiabilité dans l'instant.
Gérard Collomb, le président, n'a pas écouté vos conseils pour éviter la crise des gilets jaunes, mais peut-être qu'aujourd'hui il a l'oreille plus attentive. Si vous lui donnez un conseil pour sortir de cette crise, c'est lequel ?
D'éviter, lorsqu'il parle, parce que c'est quelqu'un de très brillant, on l'a vu dans le débat qui vient de se terminer, c'est quelqu'un qui a une masse de connaissances tout à fait fondamentale, de ne pas se laisser emporter par le bon mot qui, à un moment donné, va compromettre le reste.
Vis-à-vis de vous, Gérard Collomb, Emmanuel Macron est-il comme un fils qui a eu tort de ne pas écouter les conseils de son père.
Oui, je ne dirais pas cela. Vous savez, il aurait existé sans moi. Je n'aurais pas cru au début, lorsque je l'ai soutenu, qu'on irait jusqu'à la présidentielle. Moi, je voulais aider à faire surgir dans le débat politique quelqu'un qui porte la réalité de notre pays, ses insuffisances économiques, son déclin progressif à enrayer. Voilà, c'était pour cela que je me suis engagé auprès de lui.
Il vous a un peu déçu, mais vous lui donnez une seconde chance, si on vous a bien écouté ce matin.
J'espère que la fin du quinquennat sera bonne et qu'on pourra tirer profit de ce qui a été fait dans la première partie, parce qu'il y a eu une première partie où tout réussissait. Et puis, il y a eu une cassure. J'espère qu'on en aura bientôt fini et qu'on pourra repartir de l'avant.
Merci Gérard Collomb.
Merci à vous.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.